Le choix cinéma de Samuel Blumenfeld, qui cette semaine nous recommande Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas, avec un excellent Jude Law en Vladimir Poutine. Vous écoutez Radio Classique et il est 7h15.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et il est 7h, évidemment, pas 7h15. Bonjour Léna Higmonier.
Bonjour David, bonjour à tous. Va-t-on vers un divorce pas forcément l'amiable entre la France et les États-Unis? À Davos, les enjeux seront aussi géopolitiques qu'économiques. À Strasbourg, les agriculteurs européens en colère contre le Mercosur, ils mettent les eurodéputés au pied du mur. Et puis, est-ce que ça roule? Nous vous dirons à la fin de ce journal que ce n'est pas à Paris qu'il y a le plus de bouchons.
Après le journal, l'éditorial avec les Échos, suivi de l'invité de Stéphane Pedrazzi, Xavier Heulin, directeur général d'Indigo. Que va-t-on faire de tous ces parkings? Et à la une ce matin, cette question: que peut faire l'Europe face à l'imprévisible Donald Trump?
La rupture semble consommée entre le président américain et les Européens. Donald Trump attendu aujourd'hui à Davos. Il n'y est pas encore. Son avion a dû faire demi-tour en raison d'un problème électrique, mais il est reparti depuis. Le président américain qui doit prendre la parole. Le contexte sur le plan géopolitique, il y a ces menaces répétées sur le Groenland. Et puis sur le plan économique, le chantage aux droits de douane. Emmanuel Macron, dont Donald Trump a publié des messages personnels sur les réseaux, dénonce la brutalisation du monde et l'intimidation. Le chef de l'État plaide pour ne pas accepter cette nouvelle sorte de colonisation. Il affirme que l'Europe doit utiliser des outils très puissants. Justement, qu'a-t-elle à disposition? Élément de réponse avec Marc Tédé.
Augmenter les droits de douane sur les marchandises venant des États-Unis, interdire l'accès des entreprises américaines aux marchés publics européens ou encore déployer davantage de militaires européens au Groenland. L'éventail des moyens à la disposition des pays européens est large, mais un accord est loin d'être acquis, explique Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et expert des questions européennes.
L'Italie ne le souhaite pas, l'Allemagne c'est tangent, l'Europe est désunie. Est-ce qu'elle est capable de faire face à Donald Trump? Plus l'Europe sera faible et plus Donald Trump poussera ses pions pour convaincre l'Union européenne de céder.
Donald Trump est-il encore un allié? S'interrogeait hier Emmanuel Macron. Le considérer comme un agresseur reste en tout cas difficile à envisager pour de nombreux pays de l'Union européenne, détaille Éric Maurice, analyste au Centre des politiques européennes à Bruxelles.
Il y a une vraie dépendance économique, technologique, militaire, politique et aussi une dépendance psychologique chez beaucoup de leaders européens. Réagir face à un agresseur alors que cet agresseur était depuis des décennies l'allié principal, c'est extrêmement difficile.
Il faut donc maintenir le dialogue avec les États-Unis, d'autant que les Européens ont encore besoin d'eux, tant que la Russie n'aura pas renoncé à ses ambitions en Ukraine.
En attendant, et c'est une première réponse, le Parlement européen a gelé la ratification de l'accord commercial de juillet dernier avec les États-Unis. Et j'ajoute qu'Emmanuel Macron a proposé à Donald Trump d'organiser un G7 jeudi à Paris, avec justement en marge les Russes, les Ukrainiens, les Danois et les Syriens, fin de non-recevoir du président américain.
Et justement, en Syrie, le pouvoir accorde un nouveau sursis de 4 jours aux Kurdes.
Des Kurdes lâchés par leur allié, Washington mise désormais sur le président syrien, ancien djihadiste. Parmi les enjeux, celui des camps de prisonniers jusque-là contrôlés par les Kurdes, où s'entassent des milliers de terroristes de Daesh. Donald Trump s'est d'ailleurs vanté d'avoir contribué à empêcher leur évasion. Baliverne pour Kerim Kamar, qui est représentant en France de l'administration autonome du Nord-Est syrien. Il dénonce une toute autre situation et le silence des Occidentaux.
Ces camps où étaient détenus les membres de Daesh et leurs familles, aujourd'hui ces camps sont vidés, sont libérés et la coalition internationale ne fait rien.
Des prisonniers des anciens combattants de Daesh qui pourraient prendre l'uniforme de l'armée syrienne.
Ce n'est pas qu'ils pourraient. À Alep, déjà, ils ont été formellement identifiés avec l'emblème de Daesh. Aujourd'hui, beaucoup de membres de ces factions armées considérées comme armées syriennes sont des ex de Daesh. Ils sont très bien intégrés dans la nouvelle armée syrienne. Et c'est là qui est désolant et inquiétant, parce que les chancelleries occidentales, ils voient très bien, ils savent très bien d'où ils viennent ces gens-là, ils connaissent très bien. C'est ce silence, cette inaction qui est incompréhensible pour nous.
Et des propos recueillis pour Radio Classique par Fabien Albert.
À la une de l'actualité également, 4500 agriculteurs venus de toute l'Europe sont réunis devant le Parlement européen à Strasbourg depuis hier.
C'est en quelque sorte le rassemblement de la dernière chance pour s'opposer au traité avec le Mercosur. Les eurodéputés doivent se prononcer à la mi-journée sur la saisine de la Cour justice de l'Union européenne pour retarder l'entrée en vigueur de l'accord. Lucie Dupressoir, l'issue du vote est encore très incertaine. Des tracteurs, des fumigènes et des drapeaux de toute l'Europe pour dire non à l'accord avec le Mercosur. José María Castilla, représentant des jeunes agriculteurs espagnols.
C'est un traité dangereux qui va beaucoup affecter des produits phares que nous produisons en Espagne, les agrumes et le riz. Le riz qui viendra des pays du Mercosur fera baisser le prix du nôtre. Ce sera une guerre sur les standards de production.
Les députés, eux, sont beaucoup plus divisés. Le vote pour la saisine de la justice sera très serré. Céline Imard, eurodéputée du PPE.
Selon nos derniers comptages, on pourrait gagner ce vote à 8 voix près. On va chercher plutôt à convaincre des délégations qui pourraient basculer avec nous pour renforcer notre majorité. Mais évidemment, ceux qui ont beaucoup d'intérêt à voter cet accord cherchent aussi à convaincre leurs homologues respectifs.
Selon nos informations, le vote pourrait même se jouer à une voix près. Tous les groupes ont rappelé leurs députés pour qu'ils soient bien présents. Aujourd'hui, Bernd Lang, président allemand de la Commission du commerce international.
L'objectif de cette saisine, ce n'est pas vraiment d'avoir un avis de la Cour de justice, mais juste de reporter l'accord. Je trouve que ce vote est aussi influencé par la politique au niveau national. Ce n'est pas très rationnel.
Si la saisine est rejetée, les agriculteurs pourraient maintenir leur mobilisation.
Un nouvel accident ferroviaire a fait un mort et 5 blessés graves hier soir en Espagne. Un train de banlieue à destination de Barcelone a heurté les débris d'un mur qui était tombé. Le gestionnaire du réseau ferroviaire national indique que l'effondrement a été provoqué par une tempête et des pluies qui s'abattent sur une grande partie de la région.
Radio Classique, il est 7h06. Nous partons au Japon où la plus grande centrale nucléaire de la planète sera rallumée dans les prochaines heures.
Le pays avait fermé tous ses réacteurs nucléaires après le tsunami qui avait conduit à l'accident de la centrale de Fukushima en 2011. C'est donc une étape symbolique pour le pays qui avait cru qu'il pourrait bien se passer de ses réacteurs. La correspondance de Yann Rousseau au Japon pour Radio Classique.
L'électricien TEPCO n'a pas encore donné l'heure exacte de ce redémarrage, mais tout est prêt sur place, dans la centrale de Kashiwazaki Kariwa, c'est près de Niigata, sur la côte au nord-ouest du pays. Sur le papier, c'est effectivement la plus grande centrale du monde. Ces 7 réacteurs pourraient générer 8200 MW. En gros, c'est l'équivalent de 5 EPR français. Mais cette semaine, c'est seulement un réacteur qui va être relancé, car TEPCO, l'exploitant, a déjà prévenu qu'il ne rallumerait jamais toutes les tranches du site, qui n'a pas produit de courant depuis 2011. À l'époque, la catastrophe de Fukushima Daiichi avait bouleversé l'opinion publique japonaise et toutes les centrales du pays avaient été éteintes. Mais ce renoncement au nucléaire n'avait pas duré longtemps et les autorités militent depuis pour la relance d'un maximum de réacteurs, après bien sûr des travaux de remise au niveau de leur sécurité. Aujourd'hui, 14 réacteurs sont en fonctionnement dans tout le pays. Le gouvernement espère que ce sera bientôt une trentaine. C'est crucial pour les électriciens du pays et pour les entreprises qui aujourd'hui doivent fonctionner avec une électricité fabriquée essentiellement à partir de charbon et de gaz. Ce sont des ressources que le pays doit importer car il n'en a pas sur son territoire. Et cela lui coûte de plus en plus cher, car sa devise, le yen, ne cesse de s'effondrer et donc de faire flamber sa facture d'électricité.
Yann Rousseau, retour en France. Après avoir snobé l'Assemblée, les représentants de Chine et du BHV sont devant le Sénat aujourd'hui pour évoquer les polémiques auxquelles fait face la marque, vente de poupées sexuelles, d'armes de catégorie A sur le site, etc. Mais aussi pour évoquer l'installation tumultueuse de la boutique Chine au BHV de Paris.
Et puis, peut-être nous écoutez-vous en voiture en ce moment avec un trafic possiblement ralenti autour de vous, même s'il est très tôt.
Eh bien, sachez que la ville la plus embouteillée de France, ça n'est pas, contrairement à peut-être une tendance, ça c'est Lyon. Bonjour Pierre Pilet.
Bonjour.
Alors voilà ce que nous enseignent les statistiques d'une entreprise TomTom qui a fourni des solutions de navigation et qui publie ce matin son bilan de l'année.
Oui, c'est la première fois que Lyon arrive en tête de ce classement des villes les plus embouteillées. Un automobiliste lyonnais a perdu plus de 120 heures dans les bouchons l'année dernière en faisant un trajet de 10 km aux heures de pointe le matin et le soir. C'est ce qu'indiquent les projections de l'entreprise TomTom. Plus de 120 heures, ça signifie plus de 5 jours sur l'année. Deuxième du classement, Bordeaux, qui perd sa place de leader. Cette deuxième place, elle était occupée par la capitale auparavant, mais voilà Paris quatrième désormais. Paris où le taux de congestion est passé de 44% à 40%. Ça signifie tout de même qu'en moyenne, le temps de parcours est allongé de 40% par rapport à une circulation fluide. Alors une nuance toutefois, les automobilistes parisiens perdent moins de temps dans les bouchons, certes, mais ils roulent aussi moins vite, notamment avec la vitesse abaissée à 50 km/h sur le périphérique, mesure mise en place à l'automne 2024. Le taux de congestion recule aussi à Nice, Grenoble, à Rouen et Brest. Il est stable à Marseille.
Et bien, ça fait du temps pour écouter la radio. Merci Pierre.
Et ça vous laisse une heure, Lénaïque, pour
exactement
aller à votre bureau, revenir une trentaine de mètres aller-retour. À tout à l'heure.
À
suivre,
l'heure.
Donald Trump a promis l'âge d'or de l'économie américaine. Qu'en est-il un an après? Analyse à suivre d'Étienne Lefebvre avec Les Échos. Radio Classique 7h09.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous échos de la matinale de Radio Classique.
Courrier international présente Goodbye America. En un an, à la Maison-Blanche, Donald Trump a sapé les fondements de la démocratie américaine. Une dérive autoritaire accompagnée d'une révolution culturelle qui bouleverse le pays. Comment en est-on arrivé là? Comment les Américains le vivent-ils? Un hors-série de Courrier international, en vente chez votre marchand de journaux.
Envie de confort? Envie de choix? Envie de grande marque? Envie de... Topair.
En ce moment, l'espace Topair vous propose des conditions exceptionnelles sur les plus grandes marques de mobilier contemporain. Caligaris, Stressless, Imola, Neology, Ralph M, Mobilier de France, Duvivier. Canapé, canapé-lit, fauteuil de relaxation, table de repas, armoire-lit, dressing.
Espace Topair, 3000 m² pour toutes vos envies. 63 rue La Convention et 147 rue Saint-Charles, Paris 15e, 7 jours sur 7. Topair.fr.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, elle n'est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Voici l'éditorial de l'économie avec les échos à 7h11.
Avec Valtus, présent dans 28 pays, notre objectif, votre réussite.
Et voici Étienne Lefebvre. Bonjour Étienne.
Bonjour David.
Donald Trump, toujours lui, célèbre triomphalement ses un an à la Maison-Blanche en mettant en avant le nouvel âge d'or de l'économie américaine qu'il avait promis.
Oui, et c'est vrai que les chiffres vont dans son sens, n'en déplaise à ceux qui prédisaient une récession à cause des droits de douane. Le FMI vient de revoir à la hausse la croissance américaine pour 2026 à plus de 2,4%. Et hier soir, Donald Trump a estimé qu'elle pourrait atteindre 5%, voire 20%. Mais oui, 20%, pourquoi pas, si la Banque Centrale Américaine ne lui mettait pas des bâtons dans les roues. Tout cela, c'est grâce aux milliards d'investissements promis par les PDG qui défilent dans le bureau ovale et à la mise en œuvre de la loi fiscale qui va donner de l'air aux entreprises et gonfler le pouvoir d'achat des Américains. Tant pis si le déficit dérape encore. L'administration pousse aussi les banques à prêter davantage pour l'immobilier en sabrant dans les réglementations. Dopé par l'IA, Wall Street applaudit, même si la journée d'hier a été très agitée.
Alors, tout cela est assez prometteur, assez impressionnant, mais le tableau, selon vous, n'est pas si rose.
Non, et c'est pour cela que le président américain est à l'offensive avant les élections de mi-mandat cet automne. Car s'il y a des gagnants, la tech, la banque, la sécurité, il y a aussi des perdants. L'industrie en particulier, victime des taxes douanières qui augmentent les coûts de production. Un secteur qui, chose rare, a détruit des emplois l'an dernier. Déception aussi dans la construction, l'agriculture et même l'énergie, avec la baisse des prix du pétrole. Surtout, on observe le même grand écart chez les Américains entre ceux qui gagnent toujours plus et ceux qui peinent à finir le mois. Le risque étant de voir les cols bleus se détourner du vote Trump. Et depuis 48 heures, il y a bien sûr la crainte d'une vraie guerre commerciale avec l'Europe. À moins que la Cour suprême américaine ne retoque les taxes Trump, son verdict étant imminent. Cela rendrait le président furieux, mais paradoxalement, cela renforcerait l'économie américaine. Les milieux d'affaires, en tout cas, n'attendent que ça.
L'éditorial de l'économie par Étienne Lefebvre avec les échos qui font ce matin la une. Le ton monte entre l'Europe et Trump. Trump qui est attendu à Davos. Davos, pour l'opinion, c'est le ring économique Trump contre l'Europe. Voilà, tout est dit, Radio Classique, il est 7h14. Tout de suite, les voix de l'économie et on descend au parking.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Stéphane, votre invité, le directeur général d'Indigo.
Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
Bonjour Xavier Belin. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Indigo est le leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle. Vous êtes présent dans 10 pays. En France, vous avez 650 parkings, une centaine à Paris. Et vous êtes confronté à la transformation des villes. À Paris, notamment, le trafic automobile a baissé de 60% en l'espace de 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, du fait de cette évolution, vous avez le sentiment qu'il y a trop de parkings dans les grandes villes françaises?
Bonjour. Alors,
Déjà, je suis directeur général adjoint du groupe Indigo. Trop de parking, je ne le pense pas, mais les villes, et en particulier la ville de Paris, se transforment. Et d'ailleurs, à titre individuel, à titre de résident, on peut s'en féliciter. On voit les voies sur berge qui sont ouvertes à la promenade, des rues aux écoles apaisées, des rues boisées, des places piétonnisées ou des pistes cyclables en grand nombre. Et effectivement, l'usage de la voiture individuelle est questionné. Comme vous l'avez dit, moins 60% sur 20 ans en termes de circulation intramuros. Et donc, la vocation même des infrastructures que nous gérons est questionnée.
On se pose donc la question de la reconversion de certains de ces parkings où la fréquentation a diminué. Celui de l'avenue Foch à Paris est en train d'être transformé en un centre de logistique urbaine. On va y revenir en détail parce que c'est un projet structurant aussi pour la ville. Mais d'abord, la transformation dont on parle peut-être le plus en raison de l'actualité, c'est de transformer les parkings en centres de sécurité et de protection pour la population. Est-ce que vous avez le sentiment que ces dossiers sont devenus prioritaires ces derniers mois ?
Prioritaire, je ne le sais pas, en tout cas important. Indigo est signataire de la charte de résilience de la ville de Paris et nous accompagnons effectivement la ville de Paris dans ses réflexions de protection des populations en cas de crise majeure. Et nous collaborons également avec l'armée qui réfléchit notamment à des postes de commandement avancés en cas de crise militaire. Nous et l'ensemble de la profession des opérateurs de stationnement répondons présents et favorablement à ces sollicitations.
Mais vous parlez de centres de commandement de l'armée, il y a aussi des projets de data center stratégiques, des espaces aussi pour protéger la population. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui la France est en train de basculer en économie de guerre ?
Je ne sais pas si, vu de notre point de vue d'opérateur de stationnement, je ne le sais pas. En tout cas, ces infrastructures sont nombreuses dans la ville. Elles forment un réseau, elles forment un maillage. Elles peuvent accueillir beaucoup de services, beaucoup de services urbains, je dirais, classiques pour l'usage quotidien, mais elles peuvent aussi servir pour la protection des populations en cas de crise. On ne l'espère pas, mais en tout cas, elles le peuvent.
Votre groupe est présent dans une dizaine de pays. Est-ce que c'est une réflexion qui est menée également dans d'autres pays ?
C'est une réflexion, en tout cas, qui est menée à l'échelle européenne, parce que récemment, au congrès européen des opérateurs de stationnement, nous avons eu une intervention d'un ministre belge qui a développé les mêmes sujets de protection des populations en cas de crise. Donc, mais c'est une question européenne, en tout cas.
Mais quand on dit protection de la population, je sais qu'au départ, on en parlait en cas de crise climatique, notamment pour mettre les populations à l'abri. Mais est-ce que ça peut servir, un parking peut servir d'abri en cas de bombardement ?
Écoutez, je pense pas qu'ils aient été conçus spécifiquement pour ça. On retrouve à l'intérieur de certaines infrastructures des espaces plus sécurisés en cas d'attaque. Il y a quelques anciens bunkers dans les infrastructures à Paris que nous connaissons. D'une façon générale, je ne le pense pas quand même. Ça peut servir de refuge, mais je ne sais pas si ça peut servir d'abri en cas de crise majeure, mais je ne suis pas un spécialiste.
On va parler de transformation un peu moins anxiogène. Le parking de l'avenue Foch, que vous êtes en train de transformer en centre de logistique urbaine, c'est assez colossal, hein, 12 000 mètres carrés qui vont être livrés à la fin de l'année. En quoi est-ce que ça va permettre de réduire le problème lié à l'activité de livraison en centre-ville ?
Alors, les travaux du parking Foch, effectivement, illustrent notre ambition, c'est d'essayer de positionner le bon service urbain dans la bonne infrastructure. On ne transformera pas tous les parkings en France et en particulier à Paris. Et certains sont particulièrement pertinents. Et le parking Foch l'était. C'est un des parkings les plus grands de Paris, un des plus emblématiques. 2500 places aujourd'hui, plus de 50 000 mètres carrés. Et effectivement, fin 2026, en plus, en complément des activités de stationnement, le parking Foch va accueillir un espace logistique de 12 000 mètres carrés, mais pas seulement. Une aire de remisage pour autocars de tourisme et un vaste abri sécurisé pour les vélos de plusieurs centaines de places. Pour ce faire, nous cassons des planchers, nous requalifions des accès pour permettre l'entrée des véhicules de grand gabarit. Nous le pensons, cet espace sera d'une qualité inédite pour les opérateurs de logistique, une sorte de véritable poste avancé de logistique au cœur de Paris. Il a plein d'atouts, la proximité avec le périphérique, l'accessibilité donc poids lourd, et qui couvre une très grande zone de chalandise, des Champs-Élysées, d'Haussmann, de Passy, et sans aucune nuisance pour le voisinage.
Et le problème, excusez-moi, mais le problème au quotidien dans Paris, ce sont beaucoup de camions de livraison. La ville n'a pas été conçue pour ça. Est-ce que le fait d'avoir un centre logistique à proximité, ça permettra d'utiliser des moyens de livraison peut-être moins volumineux, peut-être aussi avec des vélos, des systèmes de livraison douces, comme on dit?
C'est exactement comme ça qu'il a été conçu. Une image, on entre par le périphérique, comme je viens de le dire, et on sort par les Champs-Élysées. On entre en poids lourd et on sort en cycle logistique ou en véhicule utilitaire léger pour les livraisons du dernier kilomètre.
Ouais. Est-ce que la rentabilité du centre logistique, de cette infrastructure logistique, est la même que les parkings? On sait... Et ce n'est pas vous qui fixez les tarifs des parkings, mais ils sont très très élevés à Paris. Lorsqu'un parking est occupé, c'est un investissement très rentable. Est-ce qu'un centre de logistique va rapporter la même chose?
Alors effectivement, vous l'avez précisé, merci, ce sont les collectivités qui fixent effectivement les tarifs et pour lesquelles d'ailleurs, opérations pour lesquelles nous leur versons des redevances. Ce que nous cherchons à créer ici avec l'exemple de Foch, c'est une valeur, une rentabilité sur des surfaces qui sont inoccupées, donc qui par définition n'en ont pas, et sans modifier l'économie actuelle du stationnement. Ça veut dire que pour la ville de Paris, à court terme, c'est plus de redevances. Et à long terme, puisque nous travaillons en modèle concessif, nous redonnons les clés de l'ouvrage pour zéro à la collectivité au terme du contrat. À terme, donc pour la ville de Paris, c'est plus de valeur patrimoniale.
J'ai une dernière question à vous poser. Vous êtes actionnaire à 100% de la société Smooth & Go. Ce sont les Vélib à Paris. On a souvent entendu que les Parisiens n'étaient pas très soigneux, que les vélos étaient régulièrement saccagés. C'est vrai encore aujourd'hui?
Alors, le service Vélib, d'abord, il a beaucoup de qualités. Je voudrais simplement les résumer. En un mot, c'est un service populaire. C'est un véritable maillon aujourd'hui du réseau de transport public en Île-de-France. C'est très peu cher. Et effectivement, il peut être victime de son succès.
Combien vous perdez de vélos par an? Combien de vélos sont hors service par an à cause des petits vandales qui les utilisent?
Écoutez, on a vécu une crise majeure l'été dernier. On en a perdu entre 2 et 3 000 vélos qui ont été effectivement vandalisés.
À quelle occasion?
L'occasion de l'été, il y a eu plusieurs phénomènes, notamment la finale également du PSG, qui a été un événement marquant aussi pour le système. Mais je tiens à soutenir, j'envoie un petit message de soutien à toutes les équipes de Smooth & Go qui s'occupent du service Vélib et qui travaillent au quotidien pour la qualité du service. Merci beaucoup.
Merci Xavier Heulin, directeur général adjoint des parkings Indigo. Pardon.
Stéphane, merci. Merci à tous les deux. Stéphane, on vous retrouve dès demain à 6h pour la matinale de l'économie sur Radio Classique. Dans un instant, Karine Dijoux. Et si on parlait français, suivi des coulisses de la politique. Elle est critique du budget adopté pour 2026, mais la droite se console. Elle ne l'a pas voté. Radio Classique, 7h22.
Chez Air Caraïbes, ils ont du XXL.
Du XXL?
Eh oui, confort XXL pour voyager en classe premium économie dès 999€ ou en classe affaires à partir de 1499€.
Pour aller où?
Guadeloupe, Martinique, bref, toutes les destinations Air Caraïbes. Tu vois, je te l'avais dit que j'avais besoin du XXL.
XXL pour la classe, le siège et le service aussi.
Jusqu'au 22 janvier 2026, profitez des instants promo d'Air Caraïbes et voyagez avec un confort XXL. Rendez-vous sur aircaraïbes.com. Offre soumise à condition.
Air Caraïbes, la compagnie haute en couleur.
Investisseurs actifs, avec Bourse Directe, réveillez votre trading avec la gamme Morgan Stanley. Plus de 250 000 varants, turbo, certificats en exclusivité, des sous-jacents inédits sur les thématiques de demain. Offre disponible uniquement chez Bourse Directe. De plus, vos frais de courtage sont gratuits toute l'année. Avec Bourse Directe, vivez la bourse autrement. Produit à effet de levier présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l'échéance. Communication promotionnelle.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Bonjour Karine.
Bonjour David.
Aujourd'hui des vers et des rimes, place à la poésie. Je vous écoute.
Rappelons d'abord les noms de vers. L'un des plus répandus est l'octosyllabe. 8 syllabes comme son nom l'indique. Ce mot est formé à partir du latin octo, signifiant 8, qu'on retrouve d'ailleurs dans le mot octobre, qui était le 8e mois de l'année avant l'instauration du calendrier julien.
Il y a également le décasyllabe et l'alexandrin.
Oui, nous sommes toujours dans la catégorie des rimes paires. Le décasyllabe est un vers de 10 syllabes. Cela vient du latin decem, qui signifie 10. Mais pourquoi l'alexandrin porte-t-il ce nom? et pas celui de dodécasyllabe. Il faut savoir que c'était le nom initial de ce vers de 12 syllabes. Jusqu'à la parution du roman d'Alexandre, un recueil de légendes narrant les exploits d'Alexandre le Grand. C'est en référence à cet ouvrage, entièrement écrit en dodécasyllabe, que le nom alexandrin a été créé. On ne sait pas vraiment si c'est une référence à Alexandre le Grand, dont il est question, ou à Alexandre de Bernay, qui a continué le roman de Lambert le Thor.
Pourquoi l'alexandrin est-il si employé ?
Il est devenu la norme dans la poésie classique. Il est employé par les dramaturges du XVIIe siècle les plus connus, Corneille, Racine ou Molière. Sa longueur et sa structure sont parfaitement adaptées pour exprimer des émotions fortes et des pensées élaborées.
Et l'alexandrin est divisé en hémistiches.
En effet, l'alexandrin a une structure de 12 syllabes. Il est généralement coupé par une césure, c'est-à-dire une pause dans le rythme, donnant lieu à deux hémistiches, deux parties constituées de 6 syllabes.
Et si un vers fait 11 syllabes ?
Alors là, nous entrons dans le monde des pas assez célèbres pour avoir la mise en lumière de l'alexandrin. Ça s'appelle un endécasyllabe, avec un H au début. Beaucoup moins répandu, mais les vers impairs ont aussi leur charme. Pour finir, voici une citation de Verlaine qui les met à l'honneur. « De la musique avant toute chose, et pour cela, préfère l'impair. »
Je vous dis à demain, sans impair, ma chère Karine Dijoux. Impair sur la langue française, évidemment.
À demain.
Union des coopératives agricoles françaises, Invivo s'engage pour une agriculture résiliente, souveraine, rentable et durable. Invivo accompagne la transition agricole et soutient notre souveraineté alimentaire avec des solutions innovantes et responsables au service des agriculteurs. Avec Invivo, cultivez vos connaissances éco dans le décryptage à 7h54 sur Radio Classique.
Samedi prochain, retrouvez la chronique « Bleu comme le monde » avec Caroline Forge.
Cette semaine, nous verrons comment la société civile peut se mobiliser pour soutenir des projets scientifiques de protection de l'océan.
Bleu comme le monde, le rendez-vous dédié à la préservation de l'eau sous toutes ses formes, chaque samedi à 8h54 sur Radio Classique.
Bleu comme le monde, avec Banque Populaire, la banque de la voile et du surf, engagée pour la préservation de l'eau.
Alors on entend de plus en plus parler de souveraineté numérique et vous nous présentez justement Private Discus.
Private Discus, c'est la solution de visioconférence. C'est ergonomique, c'est performant, cybersécurisé et surtout c'est 100% français. Nous garantissons la stricte confidentialité des données de nos clients, contrairement aux géants du marché.
Private-discus.com, la visioconférence française. Merci beaucoup Sébastien Chabal.
Toyota. Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique, je suis...
La baguette ? Le croissant ? Non, la Toyota Yaris Cross Hybrid.
Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
Et elle n'a jamais été aussi accessible. Pendant les reprises fantastiques, la Toyota Yaris Cross Hybrid est à partir de 239€ par mois, entretien inclus. Yaris Cross Hybrid dynamique blanc pur à partir de 239€ par mois, LLD 37 mois, 30 000 km, entretien inclus. Premier loyer, 4390€ réservé aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 2 février sous conditions de reprise. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Marcelo Vesfred à 7h27 pour les coulisses de la politique. Bonjour Marcelo.
Bonjour David.
La droite s'est montrée pour le moins silencieuse ces derniers jours, alors que la copie budgétaire accorde un grand nombre de cadeaux aux socialistes et se montre très dure avec les entreprises. Comment expliquer cette position de la droite ?
Alors c'est vrai que dans ce budget, il y a des impôts de production qui ne baissent pas, il y a des recrutements de fonctionnaires, des repas à 1 euro pour tous les étudiants, même ceux qui ont les moyens. Il y a 8 milliards de surtaxes pour l'impôt sur les sociétés et en face, aucune économie. Alors en temps normal, les Républicains auraient hurlé. Eh bien David, c'est tout l'inverse. Les députés de droite sont même aux abonnés absents. Pas de réunion de groupe hier et leur président Laurent Wauquiez a botté en touche quand il a été interrogé. On verra ce qu'on dira dès qu'on aura la totalité du budget. Voilà sa réponse.
Mais au fond, est-ce que ce 49-3 n'arrange pas les affaires de la droite ? Est-ce que c'est ça la raison ?
Oui, je pense que vous avancez une raison qui tient effectivement, puisque ça évite aux députés LR de voter en faveur d'une copie de compromis bancal. Dans cet accord, ils ont tout de même, les élus LR, fait passer leur demande. Pas touche à l'impôt sur le revenu, pas touche au revenu des retraités. Alors ils ne censureront pas le gouvernement, mais pour le reste, ils regardent ailleurs, même si tout à l'heure, Laurent Wauquiez devra sortir du bois. Il est l'invité d'une association de journalistes.
Et le reste de la droite, ceux qui ne sont pas députés, qu'en pensent-ils ?
Alors, beaucoup pensent que c'est une erreur. À l'image de Franck Louvrier, qui est le maire de La Baule, je le cite, « Les convictions de la droite sont sacrifiées sur l'autel de la stabilité et il propose la chose suivante, je le cite, « Nous devons déposer une motion de censure, oui, une motion de censure, la nôtre. » Alors, cet élu pense que les Insoumis ne voteront jamais une motion de censure des Républicains. Ça ne ferait donc pas tomber le gouvernement, mais ça enverrait un signal de désaccord juste avant les municipales.
Que dit le président des LR, Bruno Retailleau ?
Alors, il s'est fendu d'un tweet hier soir. Le chef du parti est furieux. Le budget, je le cite, proposé par le gouvernement, reprend tous les ingrédients socialistes qui ont conduit au déclin de la France. C'est ce qu'il a publié, mais le voilà décidément peu suivi au sein de sa propre formation politique.
Quel problème de la politique du tweet ? C'est toujours un peu court, à droite comme à gauche. À demain, Marcelo, les coulisses de la politique avec Marcelo Westfred. C'est tous les jours à 7h25, tout de suite la météo. Charles, bonjour.
Bonjour David.
Une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne.
Et le Morbihan et le Finistère sont placés en vigilance orange. Pluie, inondation, ailleurs c'est plutôt sec et plutôt ensoleillé. Les températures au meilleur de la journée, 5 à Strasbourg, 12 à Orléans et 10 à La Rochelle.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Charles Bonner pour le journal de 7h30.
Avec à la une ce matin la recherche de nouveaux marchés pour les vignerons français constamment menacés de taxes par les États-Unis. Marine Le Pen réfute l'existence d'un système à son procès en appel et tente un mea culpa pour adoucir sa peine. Et puis les représentants de Chine auditionnés au Sénat aujourd'hui après avoir snobé l'Assemblée nationale.
Après ça, l'écho du monde. Donald Trump prépare son show à Davos. Christian Macarian nous dira ce qu'il en attend, suivi du journal imprévisible. C'est aujourd'hui l'anniversaire du premier vol commercial du Concorde. Retour avec Marc Bourreau sur une nostalgie supersonique. Mais avant tout cela, commençons par une question. Qui veut encore devenir manager ?
Eh bien, de moins en moins de cadres. Manager ne fait plus rêver, révèle une étude de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Un tiers, à peine, de cadres non-managers veulent plus de responsabilités. C'est en chute libre, 8 points de moins en 3 ans. Une diminution encore plus forte chez les jeunes. C'est le reportage de Simon Marseille au pied des tours de la Défense.
Esplanade de la Défense.
Bienvenue dans ce grand quartier d'affaires où le parvis fourmille de jeunes cadres la 20 badge autour du cou, sont-ils prêts à prendre un jour la place de leur manager ?
Il faut que j'y réfléchisse.
Moi, franchement, non.
Pour rien au monde, je prendrais cette responsabilité-là de rester jusqu'à aussi tard le soir pour gagner 500-600 euros de plus par mois.
Il faut absorber aussi le stress qui va descendre en fait des responsables.
Ça, vous en seriez capable ?
Non.
Si après le travail, on continue toujours à marceler de questions, etc., c'est niette.
Et, le fameux mail de 22h, c'est ça ?
Le fameux mail de 22h.
Et ça serait quoi la grosse condition pour dire oui s'il y en a une ?
L'argent, hein ?
Il faut une bonne augmentation quand même.
Ça change rien du tout.
Aurait-on les mêmes réponses si l'on ménageait nos managers ? C'est ce que recommande Gilles Gâteau, directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres.
Le droit à la déconnexion, ça doit aussi concerner les managers. Et si on ne le fait pas, on aura de moins en moins de jeunes prêts à jouer ces rôles qui sont essentiels dans l'entreprise. Donc il faut que la culture change, que eux-mêmes ne soient pas pris entre le marteau et l'enclume, comme on dit souvent, il faut les accompagner.
Retenons ce chiffre, plus d'un manager sur deux estime travailler régulièrement sous pression.
Le reportage de Simon Marseille pour Radio Classique.
Donald Trump revient au Forum économique de Davos pour la première fois depuis 2020.
Son discours est à 14h30 et attendu, voire craint, lui qui est un adepte des accords bilatéraux négociés sous la contrainte des droits de douane, une technique qu'il utilise avec l'Europe. Sur le Groenland, pour 8 pays, jusqu'à 25% en juin si le territoire n'est pas vendu. Sur son conseil de la paix également, puisque la France a refusé, il évoque 200% de droits de douane pour nos vins et nos champagnes. Déjà menacés à plusieurs reprises, les vignerons cherchent donc d'autres débouchés. Mais d'ici, difficile d'en trouver dans l'urgence, Eric Kioche.
Avec 4 milliards d'euros en 2024, le marché américain est sans conteste le premier client de la France. Un quart de nos exportations de vins et spiritueux partent vers les États-Unis. Pour les vignerons, trouver un plan B en si peu de temps est impossible, explique Jean-Marie Cardebat, économiste à l'Université de Bordeaux et à l'INSEC.
Il y a un problème de stratégie nationale. Une partie de l'aide publique devrait s'orienter très clairement vers ces enjeux commerciaux et vers ce fameux plan B. Il faut explorer tout un tas de destinations qui vont remplacer à terme ferme le marché américain qui pourrait bien se fermer de plus en plus.
Et pourquoi pas vers le Mercosur, avec qui nous venons de conclure un accord commercial avec des droits de douane préférentiels pour nos alcools, ou encore l'Asie du Sud-Est, l'Afrique. Mais le marché à conquérir, c'est l'Inde. La Nouvelle-Zélande vient d'ailleurs de conclure un partenariat avantageux.
Tout comme les vins néo-zélandais qui rentrent aujourd'hui avec des barrières beaucoup plus faibles sur le marché indien, il faut impérativement que les vins européens puissent obtenir ce même privilège. L'Inde, c'est près d'1,5 milliard d'habitants. Et si on parle d'un pays qui pourrait remplacer le manque à gagner aux États-Unis, ça pourrait être celui-là.
Cela prendra du temps, mais pour un secteur systématiquement ciblé par les États-Unis ou la Chine, la recherche de nouveaux marchés n'est plus une question de croissance, mais de survie.
Et les Européens continuent d'hésiter entre négocier et riposter. Négocier, c'est ce que vont tenter de faire la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chancelier allemand, Friedrich Merz. Riposter, c'est ce que défend la France. Le Parlement européen a gelé hier la ratification de l'accord commercial signé cet été et qui prévoit 15% de droits de douane pour les Européens, zéro pour les États-Unis. Les eurodéputés qui vont aussi voter aujourd'hui sur le Mercosur, ou plutôt sur une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Un vote qui s'annonce serré. Les députés devraient plutôt voter selon leur nationalité que leur parti.
Radio Classique, il est 7h35. Marine Le Pen était de nouveau auditionnée hier à son procès en appel.
Dans l'affaire des assistants parlementaires du FN qui lui a valu une condamnation en première instance, notamment à une peine d'inéligibilité. Interrogée hier, Marine Le Pen a cherché à convaincre qu'aucun système n'avait existé, Laurien Toulmont.
Les deux mains autour du pupitre, Marine Le Pen a troqué sa pugnacité des meetings pour répondre d'un ton affable à la présidente de la cour d'appel. L'interrogatoire est intense, précis, chaque email, chaque SMS lié aux assistants parlementaires du FN est épluché. On voit que c'est vous qui êtes en copie, vous qui êtes associé à la décision, relève la magistrate. Je ne suis pas des RH, réplique la chef de file du Rassemblement National avant de reconnaître que certains assistants n'ont manifestement pas travaillé pour leurs députés, mais obéissent. Bénéfice du parti. Quant aux multiples montages financiers à charge, ce sont des nœuds à la tête, des plans sur la comète, balaie Marine Le Pen qui réfute l'existence d'un système. On a le sentiment d'une manipulation, dit-elle. À défaut d'obtenir la relaxe, la candidate en sursis à l'élection présidentielle entend au moins diminuer sa peine d'inéligibilité et surtout qu'il n'y ait plus d'exécution provisoire, ce qui lui permettrait de se présenter en 2027.
Et pendant que la présidente des députés RN était au tribunal, à l'Assemblée, Sébastien Lecornu déclenchait, comme prévu, l'article 49.3 pour faire passer le budget sans vote sur la partie recettes dans un premier temps. Les ZFE, les zones à faible émission, en route pour la suppression. Députés et sénateurs se sont entendus hier soir en commission mixte paritaire. Une suppression qui serait effective qu'en cas d'adoption définitive du projet de loi simplification.
Les représentants de Chine et du BHV sont auditionnés au Sénat aujourd'hui.
Après avoir snobé l'Assemblée nationale au moment où les procédures judiciaires se multiplient, plié contre le site, le porte-parole de Chine France va pouvoir s'expliquer sur les ventes en ligne de poupées sexuelles, d'armes, mais aussi sur le modèle du site et la qualité de ses produits vendus depuis deux mois au BHV à Paris. Après l'annonce en grande pompe et les débats nationaux, les ventes ne semblent pas décoller, même en période de solde, Nina Droff.
Jean à seulement 25 euros, t-shirt à moins de 10 euros et des promotions allant jusqu'à moins 50%. Mais ces tarifs alléchants n'attirent pas les foules. À peine une vingtaine de clients sillonnent les rayons. Et la plupart ressortent du magasin les mains vides, à l'image de Sonia qui s'y rendait pour la première fois.
On a vu des hauts qui étaient déjà abîmés, des hauts en laine. Même niveau qualité-prix, on est largement moins cher dans les commerces habituels.
Même les fidèles de la marque qui achètent régulièrement sur leur site internet n'y trouvent pas leur compte.
Moins de collections en fait que sur le site sont limitées en termes de référence.
Ça égalera jamais un site, le magasin. Là, il n'y a que les vêtements, et même les vêtements, c'est pas toutes les marques Chine, entre guillemets, qu'il y a dessus. Moi, j'ai rien trouvé pour moi.
La direction du BHV le reconnaît, la fréquentation est bien en dessous des espérances. Pour Yann Rivoilan, président de la Fédération de l'habillement féminin, c'est avant tout lié aux polémiques autour de Chine, mais pas seulement.
Quand, dans un magasin, on essaie de présenter des produits normés et qu'on est obligé de payer les taxes, bah, tous les prix sont largement supérieurs au site, et donc, pour cela, tous les clients sont nécessairement déçus. Évidemment, ils ne reviennent pas. Comment le BHV va réussir à passer le mois de février? Quand on regarde les chiffres, ça ne peut pas tenir très longtemps.
Autre signal négatif, les ouvertures des 5 boutiques Chine prévues dans d'autres villes françaises comme Grenoble, Reims ou Dijon sont constamment repoussées ces dernières semaines.
Nina Droff, et puis à deux semaines de l'ouverture des Jeux d'hiver, des Jeux Olympiques d'hiver le 6 février, le concepteur de la cérémonie d'ouverture promet quelque chose de moins clivant qu'à Paris. La cérémonie célébrera la fantaisie de l'Italie avec le chanteur d'opéra Andrea Bocelli et la chanteuse américaine américaine Maria Carey. Elle se tiendra cette cérémonie sur 4 sites simultanément dans le stade de football de San Siro à Milan, mais aussi à Cortina d'Ampezzo, Livigno et Predazzo.
Merci Charles, vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres. Entre temps, Marc Bourreau est entré pour préparer son journal imprévisible, vous l'entendrez dans quelques minutes. Vous parlez du Concorde, mais dans un instant, Donald Trump à Davos, à quoi faut-il s'attendre? Christian Macarian a son idée sur la question. Radio Classique, 7h39.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
Chez Action, nous avons toujours des prix extrêmement bas. Cette semaine, une crêpière Tristar pour 12,48€ ou le nettoyant WC Miss Bubble 750 ml pour seulement 1,34€. En voilà des offres qui vous rendent vraiment heureux. Pour encore plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou dans l'appli. Action Petit Prix, Grand Sourire.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Écoutez, monsieur Martin, mon banquier a été catégorique. Nous devons absolument ralentir le rythme de nos dépenses. Et moi, je souhaite surtout pas me fâcher avec mon banquier, vous savez. C'est pour ça que pour votre facture, monsieur Martin...
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2025, le cabinet Arc a réalisé 1,2 milliard d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07. 01 46 03 07 07.
Toyota. Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique. Je suis...
La baguette? Le croissant? Non, la Toyota Yaris Cross Hybrid.
Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
Et elle n'a jamais été aussi accessible. Pendant les reprises fantastiques, la Toyota Yaris Cross Hybrid est à partir de 239€ par mois, entretien inclus. Yaris Cross Hybrid dynamique blanc pur à partir de 239€ par mois, LLD 37 mois, 30 000 km, entretien inclus. Premier loyer, 4390€ réservé aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 2 février sous conditions de reprise. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Chez GMF, être assurément humain, c'est s'engager dans des relations durables. Pour bien démarrer l'année, GMF vous offre 2 mois de cotisation pour la souscription d'un contrat d'assurance auto. Et ce, jusqu'au 31 mars. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr.
Christian Macarian pour l'écho du monde à suivre. On parle de Donald Trump à Davos.
Distingo Bank, l'épargne en toute simplicité.
À ton tour, et joue ton meilleur coup.
Je l'ai déjà fait.
Ah oui? Avec ta tour ou ton cavalier?
Non, j'ai ouvert un livret Distingo Bank avant de venir. Taux boosté, plus une prime de bienvenue, stabilité, vision, sécurité. Tout ce qu'il faut pour pas se faire mater.
Oh, et moi qui pensais avoir l'avantage.
Tu l'avais? Avant que je joue Distingo. Allez, ressaisis-toi. Va sur distingobank.fr.
Offre soumise à condition, taux promotionnel en vigueur pendant 3 mois dans la limite du plafond. Voir conditions sur distingobank.fr.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Christian Macarian qui se fend la poire, on se demande pourquoi. Il est 7h42, vous écoutez Radio Classique. Bonjour Christian.
Bonjour.
Le Forum économique mondial de Davos, grande messe du multilatéralisme et du libre-échange, s'est ouvert hier et se tient jusqu'à vendredi. Les organisateurs attendent 64 chefs d'État et de gouvernement, 850 dirigeants d'entreprise et un total de 3000 participants. Il faut le badge évidemment, venu de 130 pays, mais on attend surtout le discours de Donald Trump cet après-midi. Il a réussi son affaire. Tout le monde l'attend, c'est la vedette.
Ah ben, il ne peut pas y avoir de scène plus favorable à Donald Trump. C'est un mélange incroyable de business international et de géopolitique. On mélange les intérêts, la liberté de ton et une sorte de dévalement d'agressivité commerciale qui, évidemment, pour Trump, tient lieu de stratégie.
C'est un rendez-vous qu'il aime, parce qu'il est quand même dans son élément d'origine, il est avec des
businessmen. Complètement. Il, d'ailleurs, la meilleure preuve du fait qu'il se sent complètement à l'aise, c'est la taille de la délégation américaine, qui est la plus grande qui ait jamais été présente à Davos, puisqu'on comptera parmi cette délégation Marco Rubio, bien sûr le secrétaire d'État, le ministre des Finances Scott Bessent, le ministre du Commerce, ainsi que de nombreux dirigeants d'entreprise, dont les gérants géants de la tech, Nvidia et Microsoft.
Plus un dispositif de sécurité qui doit bien comprendre un tiers de l'effectif. On n'avait pas prévu qu'il y aurait un choc frontal entre Donald Trump et Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier. Que cache ou que révèle cet affrontement ?
Alors là, on est allé très loin, si j'ose dire. Donald Trump a franchi une sorte de ligne rouge qui existe entre chefs d'État. On n'aborde pas certains aspects. On ne divulgue pas publiquement comme ça des messages privés. Donc Trump a, encore une fois, franchi cette ligne rouge. Il a répondu à Emmanuel Macron que personne ne voulait de lui, d'Emmanuel Macron, parce qu'il sera bientôt sans mandat, je cite.
Il a dit, je l'aime bien, mais l'année prochaine, il ne sera plus là.
Il ne sera plus là, et il a ajouté, je vais mettre 200% de droits de douane sur ses vins et champagne, et il adhérera à mon conseil de la paix. Écoutez, c'est tout à fait inhabituel, certes, mais ça place l'Élysée face à un cruel dilemme. La modération qui est recommandée dans ces cas-là, afin de ne pas entrer dans la surenchère où Trump est tant à l'aise. La modération, en même temps, signifie pour Trump, là, non pas la sagesse, mais la faiblesse. Donc, l'Élysée est très, très partagée sur l'attitude à adopter, même si Macron a choisi clairement la modération.
Au-delà du bras de fer, Christian, est-ce qu'on va aborder, si j'ose dire, des sujets sérieux, en tout cas ceux auxquels on est habitué et qui ne sont toujours pas réglés, à commencer par ce qui se passe en Ukraine?
Ah oui, on a tendance à l'oublier ces jours-ci, et on a tort. Vendredi, Volodymyr Zelensky se rendra à Davos pour obtenir plus de clarté, dit-il, sur des documents qui ont été préparés avec les Américains, des documents qui ont pour but d'aboutir, bien sûr, à une avancée en matière de cessation des hostilités. Il y a aussi la question de Gaza. Il y a de grandes espérances de la part de l'organisateur du Forum de Davos pour qu'un moment spécial, je cite, soit créé à Davos, parce que on va assister à des choses extraordinaires. Pour la première fois, le président de Syrie sera présent à Davos. Les premiers ministres du Liban, du Qatar, le président israélien, le prince héritier de Jordanie seront présents. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Ça, c'est le Big Bang Trump.
Oui. C'est le Big Bang Trump qui a drainé, si je puis dire, ce brillant aréopage dans cette station située à 1650 mètres d'altitude, altitude moyenne, mais température moins 6 degrés. Trump sait aussi faire régner une certaine fraîcheur parmi les grands de ce monde.
Rappelons tout de même ce qu'a dit Emmanuel Macron avec ses lunettes noires hier. Stabilité européenne, constance du droit, respect de la parole donnée, il a fait le marketing de l'Europe et il a une fois de plus appelé les investisseurs étrangers à regarder du côté du vieux continent. Christian, je vous dis à demain.
Oui, avec plaisir, à demain David.
Pour l'écho du monde, notez qu'on reparlera géopolitique avec le choix cinéma de Samuel Blumenfeld qui nous recommande cette semaine le match du Kremlin avec Jude Law en Vladimir Poutine. Rendez-vous à 8h05 juste après le journal de 8h évidemment. À suivre, retour sur le premier vol commercial du Concorde dans le journal imprévisible. C'était un 21 janvier 1976. Chef de bord, Marc Bourreau, Radio Classique, 7h46.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous échos de la matinale de Radio Classique.
Depuis 50 ans, vous accompagnez face aux enjeux de la vie des affaires et la vocation de Del Sol Avocat. À l'écoute des besoins des acteurs de l'économie, nous proposons au-delà des conseils juridiques et judiciaires, une véritable stratégie d'entreprise. Del Sol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Del Sol Avocat, retrouvez les voix de l'économie chaque matin sur Radio Classique.
Alors on entend de plus en plus parler de souveraineté numérique et vous nous présentez justement Private Discuss.
Private Discuss, c'est la solution de visioconférence. C'est ergonomique, c'est performant, cybersécurisé et surtout c'est 100% français. Nous garantissons la stricte confidentialité des données de nos clients, contrairement aux géants du marché.
Private-discuss.com, la visioconférence française. Merci beaucoup Sébastien Chabal.
Aesio Mutuel présente
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, hein. Elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Partout en France, la Fondation du patrimoine fédère les énergies pour sauver une chapelle, un moulin, un lavoir, une forêt, pour rouvrir un musée ou restaurer un théâtre. Ensemble, soutenons la Fondation du patrimoine. Donnons un avenir à notre histoire. Et tous les jours, sur Radio Classique, retrouvez des personnalités qui témoignent de leur attachement à leur lieu de cœur dans Au cœur du patrimoine avec la Fondation du patrimoine. Vous aussi, partagez votre passion. Faites un don sur fondation-patrimoine.org.
Radio Classique, le journal imprévisible.
PNC, Marc Bourreau, bonjour.
Bonjour David, bonjour à tous.
C'était il y a un demi-siècle, l'avion Concorde effectuait son premier vol commercial, le supersonique révolutionnait le monde de l'aviation. PNC aux portes, disait-on, et on le dit toujours, armement des toboggans. Parlons ce matin du Concorde et de cette épopée française.
Ah oui, Rio de Janeiro, David, sa plage, son soleil, son Corcovado... Et son Concorde, Rio, première destination ce 21 janvier 76, une silhouette blanche, longue, effilée, nez pointu apparaît dans le ciel en mondovision après 6 heures de vol. Et c'est bien le soft power français qui se pose sur la piste.
C'est un grand moment de l'histoire de l'aviation civile. La beauté de l'appareil est évidente, la décoration est très simple, très sobre. La vue est absolument fantastique.
4 réacteurs, 110 passagers, 2200 km/h à 18 000 mètres d'altitude. Après le paquebot France et le pont de Tancarville, De Gaulle tenait son nouveau fleuron.
Nous nous unissons à l'Angleterre pour construire le premier avion de transport supersonique du monde.
Une prouesse et ses protagonistes, André Turca, pilote du premier prototype en 69, Jean Mermoz des temps modernes.
Le calme de cet avion supersonique était impressionnant, on sentait vraiment qu'il était fait pour ça.
Et Georges Pompidou ne rate pas l'occasion de monter dans la caravelle et devient le premier président à franchir le mur du son.
Pour moi, l'avenir de Concorde, c'est quelque chose en quoi j'ai confiance et je suis bien décidé à tout faire pour que cet avenir...
Concorde, un symbole en pleine guerre froide, au cœur d'un scandale d'espionnage d'abord. Le KGB prit la main dans le sac avec des plans de l'avion qui aurait bien aidé à la construction du Tupolev 144, le Kondorsky, qui s'écrasera en 73 lors du salon du Bourget. Bataille des airs aussi avec les États-Unis. En témoigne cette conversation téléphonique depuis le bureau ovale entre Kennedy et son directeur au Trésor. Nous sommes en 1963.
J'ai vu ce qu'a fait le patron de la Paname. Il va acheter 6 avions aux Français. Comment peut-il nous faire ça ? Transmets-lui ce message de ma part. Il doit se rétracter. Qu'il se prépare à avoir de gros soucis. Je me ferai un plaisir d'y veiller personnellement.
Et voilà pourquoi il faut attendre 1977 pour l'ouverture d'une liaison Paris-New York. Concorde, cette vitrine volante, son personnel en costume Jean Patou, son champagne à volonté, son homard breton, ses truffes, c'est parfait au chocolat concocté par Alain Ducasse. 47 000 francs, David, aller-retour, au-delà de la vitesse du son.
Ça me surprendra toujours. Il y a 3h30 à peine, on était encore à Paris. Planète paraît si petite.
Pendant qu'Alain Delon disserte dans son cockpit, dans ce navet au cinéma, les profils changent aussi en cabine. Les hommes pressés des temps modernes, les hommes d'affaires.
Quand on a besoin d'aller à New York pour signer même un contrat dans une journée, on peut partir le matin, revenir le soir. C'est tout de même exceptionnel, avec un confort absolument nouveau et irréalisé auparavant.
Voyage, voyage.
Eh oui, Concorde, ce monde suspendu où se croisent anonymes et vedettes. Il n'était pas rare de croiser David Bowie, Elton John ou encore Paul Newman.
Quand vous croisez le regard de Monsieur Paul Newman, n'oubliez pas. Il a les yeux bleus comme le ciel quand il fait grand beau.
On y croise aussi des gouvernements au grand complet. Même à 18 000 mètres d'altitude, on fait de la politique.
Raymond Barre et Jacques Delors ont conforté leur point de vue sur l'Europe. Et François Mitterrand est venu leur faire un brin de causette. Le président de la République avait invité Édith Cresson à l'avant pour lui éviter de croiser Fabius et Rocard à l'arrière.
Concorde, une signature et des performances aussi, David. Quelle est la différence entre ce morceau de Phil Collins et celui-ci ?
Alors là, c'est une colle.
Eh bien, à peu près 6000 km, figurez-vous. Ah. Deux performances en une journée pour Phil Collins. Lors du grand concert Live Aid en 85, Londres à 15h, Philadelphie à 19h35. Sans doute la plus belle empreinte carbone de l'histoire de la musique, avec le Concorde. Le Concorde, des coups d'éclat mais aussi de sérieuses ombres au tableau. Le choc pétrolier est brutal pour un appareil qui consomme 20 tonnes de kérosène par heure. Il y a aussi la chute des ventes et ce crash en juillet 2000 après son décollage de Roissy, 119 victimes, l'accident de trop pour l'oiseau qui prend définitivement sa retraite en 2003 devant des milliers d'admirateurs.
C'est un peu comme le paquebot France, vous avez connu le paquebot France ? Hein, c'est quelque chose de bien, de grand, et bien on l'a laissé partir pour pas grand-chose.
Trop cher, trop gourmand, trop ambitieux, Concorde, un fleuron qui s'est retrouvé lui aussi rattrapé par le changement d'époque. Et dire qu'à une époque, la France, David, devait développer son successeur avec les États-Unis et qu'il devait s'appeler l'Alliance. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze,
Marc Bourreau pour le journal imprévisible. Concorde, vous pouvez réagir sur le forum de Radio Classique. Seriez-vous prêt à revoir s'envoler le Concorde de Roissy pour aller à New York ou à Rio? Et le prendriez-vous volontiers? Je suis sûr que les prix ont baissé. Hein,
oui, mais bon, les performances ne sont pas les mêmes. Oui.
Alors évidemment, il y a le bilan carbone, mais enfin, voilà. Si vous avez envie de revoir Concorde, vous nous le dites sur radioclassique.fr. On va continuer à se déplacer d'une certaine façon avec David Barou qui nous parle de la bonne santé du tourisme mondial. Radio Classique, 7h55.
Les ETI sont essentiels dans la transformation durable de nos vies. Comment ? Réponse avec Grâce à nos ETI, chaque mardi à 7h29 avec Fabrice Lundy sur Radio Classique. Un programme proposé par KPMG, cabinet leader de l'audit et du conseil en France, engagé à agir pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable.
Si votre entourage vous trouve invivable, si vous ne supportez plus la sonnerie de votre réveil, si vous ne savez pas à quand remonte l'achat de votre matelas, c'est qu'il est temps de changer de literie.
L'Espace Topair vous propose les plus grandes marques de literie. Bultex, Tréca, Simons, Tempur, Emma, Epeda, André Renault. Dans le plus grand espace literie à Paris et à des conditions exceptionnelles. Alors pourquoi attendre plus longtemps ?
Espace Topair Rive Gauche, 66 rue de la Convention, Paris 15e. Espace Topair Rive Droite, 56 cours de Vincennes, Paris 12e. Topair.fr.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
En janvier, évadez-vous avec le nouveau SUV Citroën C3 Aircross à partir de 199€ par mois seulement. Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2 500€, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par détail sur citroën.fr. Pensez à covoiturer.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et David Barou pour le décryptage de l'économie à 7h56.
Avec InVivo, Union des coopératives agricoles françaises, engagée pour la transition agricole.
David Barou, bonjour.
Bonjour David.
Les chiffres du tourisme au niveau mondial pour 2025 sont tombés et ils sont très bons.
Oui, l'ONU qui suit les statistiques du tourisme international, c'est-à-dire quand les voyageurs traversent une frontière, hein, nous révèle que l'an dernier, pour la première fois, plus de 1,5 milliard de personnes ont effectué un voyage à l'étranger. C'est 4% de plus qu'en 2024, année au cours de laquelle on avait retrouvé le niveau pré-Covid. Pour l'économie mondiale, on parle quand même d'un impact économique de plus de 2 000 milliards de dollars. C'est 6% de l'activité économique internationale, 6% des échanges. Et le dernier point positif, c'est que le tourisme, c'est une activité vraiment mondiale. Même si plus de la moitié des voyages sont concentrés en Europe, on voyage quand même sur tous les continents. Dernier chiffre qui peut rendre optimiste, selon l'ONU, le marché devrait continuer de croître de 3 à 4% cette année. D'abord parce que l'inflation se calme un peu partout, ça c'est un vent de face en moins. Ensuite parce qu'il va y avoir des grands événements internationaux, comme la Coupe du Monde de football aux États-Unis, si Donald Trump ne fout pas tout par terre. Et ça, c'est un vent dans le dos pour le tourisme.
Donc on peut rester optimiste pour l'activité touristique.
Oui, car on voit bien qu'il y a dans le monde une vraie envie de vacances, ça c'est sûr, mais aussi une vraie envie de voyage. En dépit des tensions internationales, internationales et puis de l'inflation dont je vous parlais, on voit que le tourisme a une vraie capacité de rebond. En 2020, pendant le Covid, on était tombé à moins de 400 millions de voyageurs internationaux. Dès 2024, 4 ans plus tard, on avait retrouvé 1 milliard de voyageurs en plus. Alors les deux moteurs qui portent cette industrie, c'est d'un côté la poursuite de l'enrichissement de la planète. Quand la classe moyenne grossit, on a plus de gens qui ont plus d'argent et aussi plus de temps libre pour les loisirs. Et l'autre moteur, c'est la poursuite des migrations internationales. Même si Trump ferme la porte des États-Unis, ce qui a d'ailleurs pesé négativement sur le flux touristique vers les USA, qui n'ont progressé que de 1% l'an dernier, et que l'Europe, dans le même temps, est aussi plus restrictive, il y a quand même des diasporas un peu partout. Et dans le tourisme, il y a ce besoin de rentrer au pays de temps en temps pour voir sa famille. Comme il y a une demande soutenue, une architecture de l'offre s'est mise en place avec du transport aérien et de l'hôtellerie. Tout ça, ça s'est segmenté pour faire face à tous les budgets, tous les besoins. En fait, il n'y a pas un tourisme, mais des tourismes.
Et il n'y a qu'un seul David Barou pour le décryptage tous les jours à 8h05. À demain, David.
À demain.
Voici l'unique, le seul, Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour David, bonjour à tous.
Aujourd'hui une question, qui était vraiment Madame Royale? Rien à voir avec Ségolène Royal.
Non, c'est l'autre Madame Royale, oui. Celle qui portait ce titre, Mousseline, comme l'appelait Mousseline la sérieuse. C'est sa mère qui l'a qualifiée ainsi, c'est la fille de Marie-Antoinette et du roi Louis XVI. Elle vivra, vous savez, l'horreur de l'emprisonnement au temple où ont été successivement tués son père, sa mère, sa tante, son frère. Elle est la seule survivante de la famille royale.
Mousseline a retrouvé avec Franck Ferrand un peu après 9h. À tout à l'heure, Franck. Lénaïque, une nouvelle perturbation à bord de la Bretagne et le Nord-Ouest.
Oui, d'ailleurs, le Finistère et le Morbihan sont placés en vigilance orange pour pluie et inondation. Bretagne, Normandie, Pays de la Loire seront donc sous la pluie aujourd'hui, tandis que le temps restera souvent couvert du centre au bassin parisien. Temps sec et ensoleillé sur tout l'est du pays. Les températures ce matin, vous avez 13 degrés à Nice, 7 à Paris, 8 à Toulouse et 2 à Lyon. Et cet après-midi, il fera 13 degrés à Biarritz, 12 à Brest et 9 à Lille.
10 secondes et il sera 8h. Vous écoutez Radio Classique.